Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 3 avec Patrice et Stéphane, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lemont, édition Périgord, rédacteur en chef du magazine Horizon Périgord. Mais tout de suite, voici les actualités de la semaine.
Les actualités.
Dordogne, inquiétude pour les salariés de Gosport à Trélissac. Dans son magasin de Trélissac, Gosport emploie une dizaine de personnes. Le propriétaire et homme d'affaires Michel Ohaillon est en difficulté sur plusieurs enseignes qu'il détient. Les magasins Camailleux ont fermé en octobre dernier après une liquidation judiciaire et les magasins Galerie Lafayette sont en procédure de sauvegarde. Il y a deux autres magasins Gosport en Dordogne, à Montignac et Sarlat, mais il s'agit de franchises. Patrice, tu avais une actualité aussi, je crois.
Oui, merci. Petite actualité de Paris, notre belle ville, notre capitale, qui est en train de s'entraîner en ce moment pour les JO 2014. Comme tout le monde le sait, saut d'obstacles, 100 mètres haies, on peut dire aussi comment j'évite d'attraper des maladies. Merci à la mairie, merci à cette belle entreprise qui nous débarrasse de nos poubelles. Merci à tout le monde. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vivre à la capitale.
Oui, bon, merci Patrice. Alors, Dordogne, deux nouvelles aides pour les agriculteurs sinistrés du Ribéracois. Le ministre de l'Agriculture, Monsieur Marc Fesneau, a accordé une rallonge de 1,87 million d'euros aux agriculteurs du Ribéracois qui ont été touchés par la grêle du 20 juin. On se rappelle qu'il y avait un grand orage de grêle l'an dernier et on espère que cela les aidera un petit peu à avancer.
L'invité de la semaine.
Donc aujourd'hui, Monsieur Frédéric Lemont, rédacteur en chef du magazine Horizon Périgord, un magazine sur le Périgord aux éditions Périgord, je vous laisse avec Patrice. Messieurs, c'est à vous.
Frédéric, bonjour. Frédéric, je suis ravi d'avoir Frédéric dans ce studio d'enregistrement, parce qu'il y a un moment quand même extraordinaire qu'on peut vivre à cet instant, c'est qu'il y a 5 ans de cela, le 4 avril 2018, Frédéric était ici pour le lancement de son magazine, l'édition Périgord, dans ce studio, sur cette antenne RLP 102.3 et avec bien évidemment un journaliste que grand nombre de Périgordins connaissent et ont apprécié, Alain Bernard, qui était là et qui était avec vous, Frédéric, pour lancer votre magazine. Vous vous en souvenez ?
Ah oui, je me souviens très bien, Alain Bernard déguisé en perroquet.
Ça, c'est tout à fait lui. Ça.
Avec des bonbons, évidemment. Pour ceux qui le connaissent, ça les surprendra pas. Pour les autres, c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre communicative et qui faisait tout pour la communiquer. Et il avait un côté fantaisiste extraordinaire qui se retrouvait aussi dans sa plume. Parce que quand on lisait Alain Bernard, on lisait Alain Bernard.
Un personnage bien particulier, haut en couleur pour notre département. Lancement de ce magazine, de votre magazine, l'édition Périgord. Alors, pour une fois, on parle de la presse périgourdine, mais qu'est-ce que l'on peut entendre par presse périgourdine ? Rappelez-nous un petit peu le positionnement de votre magazine.
Alors, notre magazine, c'est un magazine qui s'adresse à la fois aux Périgourdins et à la fois aux gens hors des frontières du Périgord qui s'intéressent à la Dordogne et à ses environs, puisque c'est un magazine de presse qui est agréé par la commission paritaire, un truc qui dépend du ministère de la Culture et qui permet de rayonner un petit peu mieux grâce à des tarifs postaux, etc., des choses très intéressantes. Et c'est un magazine qui est en vente chez les marchands de journaux, dans les kiosques, dans le Périgord, dans la France entière, un petit peu aussi dans certaines villes étrangères européennes proches de chez nous, qui s'intéressent au Périgord. L'idée de base était de créer un titre qui fédère à la fois le Périgourdin et celui qui s'intéresse au Périgord mais qui n'habite pas là, C'était un pari, parce qu'on s'est un peu demandé, on s'est un peu creusé la tête, comment faire pour intéresser tout le monde. Et finalement, en apportant de l'information que les gens n'ont pas, ou des compléments d'information, ou des compléments historiques, voilà.
Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce magazine, il faut quand même leur donner une image. C'est un magazine qui contient une centaine de pages, avec une qualité de papier, on peut dire luxe, hein, un papier couché, un papier brillant, un papier épais, qui met vraiment en valeur le contenu du magazine. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu justement de ce contenu? Qu'est-ce qu'on a dans l'édition du Périgord?
Alors, j'ai pour habitude de dire que c'est le magazine, c'est un magazine qui met en lumière toutes les richesses du Périgord, sachant que c'est un éventail assez large, hein, puisque ça part bien sûr de l'histoire. C'est un département qui a une histoire phénoménale.
Quand on parle du territoire.
Voilà, du territoire. Des entreprises aussi, puisque il n'y a pas que le tourisme, hein, dans le Périgord. Il n'y a pas que le foie gras, la gastronomie. On est connu pour ça dans le monde entier, et tant mieux, parce que ça a permis aussi à la Dordogne d'être à la fois un territoire rural, mais un territoire aussi qui se visite. Il y a aussi une attractivité économique qui est très intéressante dans le Périgord, de par sa position, mais aussi de par le dynamisme des entrepreneurs, des institutions qui font tout pour attirer les entreprises. Bon, en tout cas, on essaye de parler de ça, de proposer des idées de balade. C'est très large, hein. Ça peut être visiter ou revisiter des choses qui ne sont pas très loin et qu'on croit parfois uniquement destinées aux touristes. Il y a beaucoup de gens qui sont de Périgueux. Nous les premiers, on ne connaissait pas. Par exemple, là, dans le numéro actuel, il y a un reportage sur le MAP, le musée de Périgueux. Il y a tellement de gens qui vivent à Périgueux depuis des décennies qui nous disent « Mais je suis
très
jamais allé au MAP,
très, très
allez
musée.
Voir ce musée !»
Alors, ce qui interpelle dans votre magazine, c'est, en effet, vous parlez du territoire, vous parlez des richesses de ce territoire, aussi bien au niveau architectural, au niveau de son relief, au niveau de sa culture, de sa gastronomie, mais ce qui est intéressant et ce qui quelque part, est perturbant, c'est la richesse des informations que vous pouvez... Il y a une plume, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais... Il y a des belles photos, il y a des belles adresses, il y a des belles idées de rencontres et de découvertes, mais il y a aussi des plumes qui sont capables de mettre en valeur, de raconter l'histoire de nos richesses. Comment vous êtes organisé? Vous avez, je sais pas moi, vous êtes combien? Vous êtes 100 reporters. C'est quoi? C'est une multinationale?
C'est une multinationale complètement. Non, c'est plus une entreprise artisanale. La presse est quelque chose qui est, en tout cas pour notre cas à nous, c'est à la fois une entreprise, mais c'est aussi une passion. C'est quelque chose, beaucoup d'entrepreneurs sont passionnés par ce qu'ils font, mais voilà, donc le projet à la base était de créer un média et de créer la structure qui allait porter ce média, bien évidemment. Mais voilà, donc pour répondre à la question, c'est une entreprise familiale que j'ai montée avec ma mère Odile, et donc on est sur le terrain, on va faire les reportages nous-mêmes. Moi, je suis passionné de photos et d'écriture depuis 25 ans. C'est mon métier de base, hein, d'être journaliste et auteur. L'idée était de mettre ce savoir-faire au service d'une publication qui elle-même est au service d'un territoire, pour créer quelque chose de différent, de nouveau. On a évidemment des gens qui nous aident, des plumes qui nous aident, et très prochainement on va développer de nouveaux projets avec de nouvelles plumes.
D'accord. C'est un mensuel ?
C'est un trimestriel.
Trimestriel,
oui. Donc, on sort à peu près avec le changement de saison. Donc là, comme on vient de passer au printemps, comme ça se sent dehors, le prochain numéro arrive la semaine prochaine.
Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce magazine ?
Alors, on peut le trouver chez les marchands de journaux, dans les kiosques, donc sur le territoire périgourdin, mais dans beaucoup de points de vente en France entière, hein, puisqu'on est aussi sur pas mal de points de vente dans la France. On peut aussi se le procurer sur notre site internet. Voilà.
Alors, permettez-moi d'être un peu curieux, oui. mais c'est aussi dans le bon sens. On connaît tous l'image de la presse. On sait bien que la presse, c'est une danseuse, c'est une valseuse. On n'a jamais gagné du pognon dans la presse. Hein. Ça c'est bien. La presse, elle est subventionnée. On connaît aussi l'intérêt d'avoir des journaux. On connaît aussi les propriétaires de journaux et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Mais ça n'a jamais gagné d'argent, la presse. Alors, comment vous arrivez, vous, quel est votre modèle économique pour réussir à survivre ou à gagner beaucoup d'argent, je ne sais pas, d'ailleurs.
C'est ça. Ouais, bah, multimillionnaire aussi. C'est ça. Non. Et je répète ce que je disais, c'est de l'artisanat. Donc, ça fait partie du modèle économique. On fait du low cost. Et le low cost a mauvaise presse, qu'elle de dire. Mais quand c'est fait avec passion, quand c'est fait avec des gens qui ont un moteur qui est certes de faire tourner une entreprise, mais aussi de proposer aux gens, enfin, je veux dire, la plus belle récompense, c'est évidemment de pouvoir se payer à la fin du mois, on est d'accord, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un qui va nous dire, moi, ça m'a vachement intéressé de lire cet article, bon, celui-là moins, mais en tout cas, celui-là, oui, et voilà. Donc, c'est vraiment, le modèle est la qualité artisanale. Donc on a beaucoup de portraits dans notre magazine d'artisans, notamment d'artisans d'art. Il y a vraiment beaucoup d'artisans d'art exceptionnels dans le Périgord, et c'est tous des gens en fait avec lesquels on se retrouve souvent sur des valeurs communes. C'est ces valeurs là de dire, moi je fais de la qualité, je la fais à mon rythme, je la fais avec ma quantité, et ça m'apporte cette qualité de vie en fait.
C'est ce que je cherchais en posant ma question, parce qu'il est très difficile pour les auditeurs qui nous écoutent de percevoir votre magazine qu'ils n'ont pas sous les yeux, quoi qu'ils peuvent tout à fait le voir sur Internet. Hein, aussi.
Ça, oui.
On peut aller sur le site
éditionperigord.com,
et là vous verrez la qualité des articles et du magazine. Parce que ce qui fait bien sûr sa particularité, c'est ça. C'est ce que vous avez dit, c'est son côté artisanal, c'est son côté qualité, c'est d'aller au bout des choses, parce que si vous me parlez des grottes de Lascaux ou si vous me parlez d'un autre lieu en Dordogne, on n'en invente pas tous les jours. Donc ils sont connus, ces lieux, mais ils sont connus, tout dépend comment on les raconte.
Absolument.
Et tout dépend sous quel regard on peut asseoir quelque part sa position et envie de découvrir ce lieu. Et c'est toute la particularité de votre magazine, aussi bien sur, j'ai envie de dire, le territoire, sur les gens qui y habitent, sur les savoir-faire qui sont présents. Et ben voilà, chapeau, puis aussi merci à Alain Bernard et à 50 ça de vous avoir invité pour les premiers pas ou les premières heures du magazine. Mmh. Et merci à vous, en tout cas, pour ce travail qu'on peut retrouver tous les trimestres dans les kiosques, dans les bons kiosques. Et on ne les retrouve pas que dans les kiosques du Périgord, on est bien d'accord. Hein.
Ah oui, absolument. On est représenté dans des points de vente sur tout le territoire français. On est un petit peu en Belgique, au Luxembourg, alors en Espagne aussi. J'en oublie, mais en tout cas, il y a quelques villes européennes comme ça où il y a des points de vente qui intéressent les francophones et notamment les gens qui s'intéressent au Périgord et qui achètent le magazine depuis 5 ans.
Je suis encore un peu curieux, vous êtes subventionné ou pas ?
Alors, tout dépend ce qu'on appelle subvention. Une subvention directe, zéro.
D'accord.
Après, il y a dans la presse un système, tout à l'heure je parlais de la commission paritaire du ministère de la Culture, c'est un système qui permet de bénéficier d'une TVA réduite, donc une TVA à 2,10% sur les ventes, ce qui est quand même vachement intéressant, et de bénéficier de tarifs postaux avantageux aussi pour pouvoir servir les abonnés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des aides indirectes. La presse a un système très, très compliqué. L'exception culturelle française, elle amène parfois beaucoup de complications. Quand on est un grand quotidien national, beaucoup de choses sont mises en place pour nous. Voilà, tout va bien. Quand on est un petit éditeur indépendant, c'est une autre... une autre paire de
manches. Alors, il y a une valeur qui est dans ce studio, qui est dans cette radio, qui est sur cette antenne. Vous l'avez bien compris, nous sommes une radio libre. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes un magazine libre ?
On est un magazine libre. On est un magazine libre et indépendant. Je suis issu du monde de la presse. Ça fait 25 ans que je suis éditeur, que je suis journaliste. Mais d'une manière indépendante, j'ai créé mes propres petits médias, beaucoup de journaux indépendants, beaucoup de journaux qui traitent des médias aussi. Donc j'ai appris un petit peu à scruter tout ce monde-là. Je pense que pour dire qu'on serait vraiment indépendant à 100%, ça serait un média sans pub. Un média sans pub est complètement libre puisque voilà, on a de compte à rendre à personne. Aujourd'hui, si demain j'ai Apple qui vient me voir pour faire une page de pub, d'ailleurs ils sont les bienvenus. Non, en tout cas, s'ils
Apple,
viennent me
s'il
voir,
vous plaît.
J'aurai du mal la page suivante à dire ouais, bon, enfin leur nouvel iPhone, c'est jamais que l'ancien avec moins de features. Enfin voilà. Bon, il y a cette indépendance là. De la plume, de l'autocensure. Alors beaucoup de grands titres de la presse, de la grande presse française vont tout faire pour garder cette indépendance éditoriale. Mais je pense que l'indépendance aujourd'hui, elle se fait par rapport au commerce, par rapport aux liens commerciaux qu'on a avec les autres, plus que par les subventions. Parce que finalement, l'État subventionne directement et indirectement beaucoup de titres de la presse quotidienne nationale qui ne se gênent pas pour taper sur l'État. Voilà.
D'accord, très bien. Alors écoutez, je rappelle à nos auditeurs, ce magazine est en vente. Il est en vente dans les alentours de 6 euros, hein, je crois.
C'est ça, oui, 6,20 €.
C'est une pièce. Moi, j'ai envie de dire que... On ne peut pas dire que ce soit un livre, bien évidemment, mais c'est un magazine qu'on... C'est pas un magazine qui va se retrouver peut-être chez la coiffeuse, enfin en tout cas si la coiffeuse l'achète, elle fera énormément plaisir à ses clients. Et c'est un magazine qu'une fois qu'on l'a acheté, on le conserve parce que c'est d'une richesse et on aura toujours plaisir à sortir ce magazine même des années plus tard pour faire partager des contenus à des amis, à de la famille. Donc merci encore Frédéric pour ce travail et tout ce que l'on peut souhaiter, c'est grande vie et grand développement au magazine, l'édition du Périgord.
Frédéric Lemont sur RLP, merci encore d'être venu. Ce qui m'intéresse maintenant et ce dont je voudrais parler avec vous, c'est qui êtes-vous exactement ? Par quel parcours êtes-vous passé ? Où êtes-vous né ? Où avez-vous grandi ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Comment devient-on le rédacteur en chef du magazine Horizon Périgord?
Oh, ça fait beaucoup de questions en une.
Oui.
Alors, moi, je suis né pas très loin. Je suis né à Limoges, dans le Limousin. J'ai grandi, j'ai des parents qui étaient corréziens, donc avec un pied en Dordogne aussi, hein, puisque... plutôt Brive, du côté de Terrasson, etc. Les questions suivantes, on était sur ce que j'ai fait.
Donc vous avez grandi à Limoges.
Voilà.
Vous êtes né Limoges, vous avez grandi dans la région.
J'ai grandi un peu en Picardie aussi. Enfin voilà, un petit
d'accord,
peu tout ça.
Ensuite, passé université.
Alors études dans une école de commerce parisienne.
Oui.
Qui s'appelle l'IPAG.
D'accord. Voilà. Institut
De préparation à l'administration et à la gestion.
D'accord.
Voilà. Ensuite, en sortant de tout ça, j'ai créé ma première société d'édition de presse.
En quelle année ?
Oula, on était en 2001. Bah oui, non, mais
en 2001.
C'est facile à se rappeler parce que mon premier journal a été lancé le 10 septembre. Non. Le 11 septembre 2001.
D'accord, un signe annonçateur, d'accord.
Oui, alors du coup, un énorme flop, hein, parce que franchement, le jour où vous sortez un truc et vous vous dites « toute la presse va parler de mon journal
oui. »,
voilà, bon, il s'est passé.
Oh, mais ça aurait pu, parce qu'en même temps, c'était l'époque des startups et des dot-com, il y avait encore une effervescence à Paris, il se passait beaucoup de choses, on avait des déjeuners, des petits déjeuners débats avec... une grande actualité et beaucoup de projets, effectivement. Donc vous avez connu ça, vous êtes passé par cette époque-là un petit peu.
Je suis passé par cette époque-là. Après, j'étais associé avec quelqu'un qui a participé à un truc très novateur à l'époque qui s'appelait Canal Web. Canal Web, c'était une des premières web télé, sauf qu'il n'y avait pas encore la DSL et le haut débit.
Un concurrent à nous, j'étais chez MCM à l'époque.
Ah,
et
oui,
effectivement, oui, je me souviens.
Voilà, qui était porté par Pierre Berger, le Canal Web à l'époque. Et après, voilà, donc nous, on a décidé de lancer des journaux indépendants, à l'époque sans pub, format canard enchaîné, hein, donc ce format papier qui tâche les mains, et du coup qui traitait d'actualité avec beaucoup de clins d'œil.
D'accord.
Ensuite...
Donc vous avez su traverser la crise de 2002, qui a été un peu compliquée, y compris pour la presse, mais vous avez continué avec vos magazines.
Oui, toujours.
En faisant plusieurs, peut-être, ça a
permis en faisant des choses qui amenaient un petit peu de rigolade aussi, hein, à l'époque, et puis qui était en low cost aussi. Après, un choix de support plutôt différent, puisque plutôt que de faire des magazines à l'époque d'actualité, on faisait ce format papier journal, mais qui, commercialement parlant, est très intéressant, puisqu'on se retrouvait dans les portiques à quotidien. Et quand vous regardez un point de vente de presse, on a une marée de magazines, mais on a un seul portique à quotidien avec finalement beaucoup moins de choses dessus. Donc en fait, tout ce qu'on appelle la promotion directe sur le point de vente gratuite, elle était assurée par ça, par les gens qui allaient chercher La Montagne ou Le Monde ou Le Figaro et qui tombaient un petit peu sur nos journaux en disant « Ah tiens, ça a l'air sympa ça ». Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que donc, vous pouvez concevoir un produit qui est effectivement le magazine, hein, qui demande un savoir technique, de mise en page, de présentation. Vous, bon, quand vous produisez aujourd'hui un objet, quelque chose qui tient entre les mains, on le sent quand on le tient, qui a une valeur, hein, qu'on garde chez soi, effectivement, qui sera un objet qui restera dans la durée, contrairement aux choses plus périssables que l'on peut trouver. Mais vous avez aussi trouvé le moyen d'avoir des distributeurs, c'est-à-dire d'être mis en face de votre cible, ce qui n'est pas forcément très facile. Vous avez fait comment pour accéder aux distributeurs ?
Alors là encore, on est dans l'exception française, qui est une exception culturelle, mais une exception politique aussi, puisque après la libération, après cette période de censure telle que l'a connue ce pays, il y a une loi qui s'appelle la loi Bichet. Et la loi Bichet a permis à la presse, c'est-à-dire que si vous, demain, vous avez un titre à faire distribuer, vous allez voir deux distributeurs en France. Alors, à l'époque, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a deux. Donc, c'est France Presse, donc l'anciennement Presstalis, et les messageries lyonnaises de presse. Vous allez voir ces gens, vous leur dites vous distribuez mon journal, c'est une coopérative, ils sont obligés de vous prendre comme adhérent et ils sont obligés de vous distribuer.
Donc vous avez un distributeur affilié, affecté à votre secteur d'activité, vous n'avez pas besoin d'en chercher un.
Absolument, ouais. et qui finalement, alors bon, la loi Bichet est en train d'être remise en question, parce qu'il y a un océan aujourd'hui de publications, mais en tout cas, elle a vraiment permis pendant de nombreuses années à la presse d'être un peu plus libre, de pas être soumise à des conditions ou à des censures éventuelles.
D'accord. Voilà. Alors, je reprends un peu ce qu'on était en train d'évoquer à un moment. C'est la presse papier, on la connaît, vous travaillez avec pour le magazine d'édition du Périgord, mais de plus en plus... On entend parler que la presse papier un jour va disparaître, ce n'est plus au goût d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde regarde ses écrans, lit sur les écrans. Alors quand on regarde nos enfants, c'est pire, ils vivent carrément dans l'écran.
C'est ça.
Donc il n'est pas difficile d'imaginer qu'un jour la presse papier va disparaître. On peut se tromper, hein, mais en tout cas on peut l'imaginer. Il me semble que vous êtes en train d'investir sur le digital, ne serait-ce que par l'activité que vous avez en tant qu'agence de com. Vous faites des sites internet. Mmh. Expliquez-nous un petit peu cette autre activité.
Alors, d'une part, pour commencer sur le début, je pense qu'effectivement, la presse papier est en train de changer complètement. Tout ce qui est information, je pense qu'on est tellement assailli par ailleurs, par d'autres médias, par d'autres supports d'informations sur l'actualité la plus brûlante et même parfois trop brûlante parce que il faut tellement faire du show que c'est trop à la fois.
Il faut être présent à toutes les secondes.
C'est ça, sauf qu'à toutes les secondes, il se passe pas forcément un truc. Donc voilà. Donc cette presse-là d'actualité, elle est compliquée aujourd'hui, je pense, au niveau du papier. L'autre presse papier qui, à mon avis, va s'en sortir, et c'est aussi pour ça que nous, on est sur cette niche, c'est une presse qui apporte, comme vous le disiez, un produit. Oui, un produit qui est quelque chose de durable, Parce qu'un magazine, c'est durable. Une information sur le web, c'est complètement pas durable. C'est, je sais pas quel est le temps moyen resté sur une page aujourd'hui, mais en tout cas, il est...
Voilà, un feu follet.
Voilà, c'est une consommation. Une consommation.
De double sens, hein, je veux dire. Le temps de lecture va se réduire. Par contre, tout ce qui est sur Internet est archivé.
Oui.
Et on peut encore aujourd'hui accéder à des choses qui ont 20 ans, 22 ans.
C'est vrai.
Mais effectivement, c'est de la consommation beaucoup plus discount, beaucoup plus short, beaucoup plus rapide.
C'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est une autre forme de durable, en fait. Ouais. Une forme, l'archive. Et c'est vrai qu'après, nous, on a des gens qui aiment bien ne pas manquer un numéro parce qu'il y a un côté collector, il y a un côté objet. Je pense qu'il y a un côté plaisir aussi, en fait.
Vous avez des collectionneurs ?
On a quelques personnes qui...
Ah, ça a de la valeur avec le temps, ça prend de...
Ah ben ça, je sais pas encore. Il faudrait que je cherche, parce que c'est vrai que... Vous savez qu'il y a des gens qui, je sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque, achetaient tous les numéros 1 qui sortaient.
Oui.
Et puis, ils capitalisaient là-dessus. Alors, je sais pas si ça se fait encore, mais... ouais, il y avait des collectionneurs, ouais. Donc après voilà, c'est un objet, c'est quelque chose qui est palpable. Il y a le plaisir du papier, il y a le plaisir de ralentir aussi, parce que je pense qu'on a une attention beaucoup plus ralentie face à un objet papier. On peut c'est vrai qu'on peut aussi arrêter de lire un article sur internet et le relire plus tard, mais voilà, il y a ce côté tactile, il y a ce côté sensoriel qui est très différent. Et puis la lumière arrive pas dans le même sens.
Et puis peut-être qu'on est toujours plein de certitudes. Hein. L'homme a toujours plein de certitudes au moment où il pense. Du moment où on pense, on est certain du bien fondé de notre pensée, mais on ne sait jamais rien en réalité. Mmh. Donc est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 20 ans, le papier, la presse papier sera au même stade, mais peut-être aura décliné, peut-être aura repris de la valeur ou une autre valeur. Il n'en est pas moins qu'il faut être là où le consommateur et où le lecteur a envie d'être positionné. On parlait tout à l'heure en off des podcasts. Mmh. À aujourd'hui, il y a de plus en plus, on fabrique des podcasts, que nous-mêmes à la radio, nos émissions sont en podcast. Et il me semble que vous êtes en train aussi de réfléchir, ou vous avez peut-être commencé d'ailleurs.
Oui, on a un premier podcast, un pilote qui est sorti sur l'économie aussi, sur les savoir-faire. Et en fait, on s'est aperçu tout simplement que quand on va faire un reportage et qu'on s'assoit à une table avec les personnes qu'on interroge, on prenait des notes, on enregistrait sur nos dictaphones, etc. Puis après, on retranscrivait un article. Mais le problème, c'est que une fois que l'article, on l'a écrit, et que même si on prend quand même le temps de faire les choses dans notre magazine, parce que un article moyen fait 4, 6, 8 pages, donc on a quand même un beau flow, mais il y a toujours plein de choses qu'on peut pas dire, les petites choses les moins essentielles, hein, donc, mais qui sont quand même essentielles. Et donc on s'est dit ouais, pourquoi pas tout simplement enregistrer nos conversations et puis proposer aux gens d'une manière gratuite, hein, de continuer l'expérience.
Très bien. Donc, longue vie au magazine papier, longue vie au magazine ou à l'information sur d'autres supports. Le principal, c'est de communiquer, c'est de partager et de partager avec de la qualité, ou en tout cas avoir cet objectif, mmh, de pouvoir dire les choses et montrer les choses de la façon la plus belle et la plus pertinente.
Oui, donc Frédéric Lemont, c'était Frédéric Lemont sur RLP, édition Périgord, le magazine Horizon Périgord, qui vient de nous dire qu'il avait aussi le groupe, l'agence Métamédia, partenaire tout terrain en communication, conseil, digital, print et contenu, agencemetamedia.com. Très rapidement, en quelques secondes, c'est une activité secondaire ou primaire ?
C'est une activité secondaire qui coule de source, justement, avec tous ces gens qu'on rencontre, on s'est aperçu que beaucoup n'ont pas forcément le temps ou c'est compliqué de parler de soi et de faire sa propre promotion quand on a une activité, quand on est par exemple artisan et qu'on est concentré 25 heures par jour sur son activité. Ça a coulé de source de les aider à communiquer.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Longue vie au magazine, longue vie à l'agence. Bonne continuation et à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous tous.
Patrice, à la semaine prochaine.
Bien sûr.
Les actualités.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Le trésor satiné. Doré à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.